Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ô saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes à la question 17 sur le traité sur le sacrement de pénitence dans le supplément de saint Thomas, sur le pouvoir des clés. Alors ce sont des choses qui vont plus toucher ce qu'on appelle le pouvoir de juridiction. Nous allons expliquer tout ça avec saint Thomas. Que pour pouvoir confesser, il faut deux choses. Il faut d'abord un pouvoir d'ordre, il faut être prêtre, et puis il faut un pouvoir de juridiction, soit ordinaire, soit extraordinaire. Nous allons expliquer un petit peu ça. Alors, question 17, article 1. Les suppléments, doit-il y avoir des clés dans l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir des clés? Donc en fait, c'est une allusion au texte de saint Matthieu. Notre Seigneur Jésus-Christ à saint Pierre, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Bon. Pourquoi la clé? Parce que la clé, dit saint Thomas, est l'instrument qui sert à l'ouverture d'une porte. Bon, la porte du royaume nous est fermée en tant que le péché est une souillure, en tant qu'il mérite une peine. C'est pourquoi le pouvoir qui écarte cet obstacle est appelé clé. Bon, pourquoi? Parce que lorsque je commets une faute mortelle, un péché mortel, c'est comme si je fermais à clé la porte, c'est comme si la porte qui m'amenait au ciel, qui m'ouvrait le paradis, était fermée à clé. Et en plus, cette porte est fermée à clé, bien, il faut que j'ouvre la porte. Et pour ouvrir la porte, j'ai besoin d'un pouvoir spécial, qui est le pouvoir des clés. Donc qui ouvre la porte, c'est appelé le pouvoir des clés. C'est une clé d'autorité, qui n'est clé qui un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, hein, qui appartient donc à la divine Trinité par droit d'autorité. Et c'est pour ça que certains appellent ce pouvoir des clés la clé d'autorité. Donc ce pouvoir d'écarter l'obstacle du péché appartient au Christ homme, en tant qu'il est prêtre, souverain prêtre. Par le mérite de la passion qui est dite ouvrir la porte du ciel. C'est pour ça que ce pouvoir est appelé parfois les clés d'excellence. Or, du côté du Christ endormi sur la croix, dit saint Thomas, ont coulé les sacrements qui appartiennent à la constitution même de l'Église. C'est ainsi que les sacrements de l'Église, dans les sacrements de l'Église, demeurent l'efficacité de la passion du Christ. C'est une comparaison très utilisée par les pères, c'est-à-dire de même que notre Seigneur, que Dieu a ouvert le côté d'Adam pour en sortir la première Ève, créée à partir d'une côte d'Adam, de même que Adam, que je veux dire, excusez-moi, Noé dans l'arche a ouvert le côté de l'arche pour en faire sortir le corbeau, puis la colombe qui va ramener un rameau d'olivier pour indiquer à Noé et à sa famille que le déluge avait été terminé et que l'eau avait descendu. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ va ouvrir son côté le jour de sa passion, le jour de sa mort, en fait, juste après sa mort. Le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ va être percé, ouvert, pour que justement, de cette porte ouverte sur le Sacré-Cœur, dans le Sacré-Cœur, puissent sortir les sacrements de l'Église. C'est pourquoi ce pouvoir est appelé métaphoriquement la clé de l'Église, qui est une clé de service. Les ministres de l'Église, qui sont les dispensateurs des sacrements, ont reçu un certain pouvoir d'écarter cet obstacle, dit saint Thomas, du péché, obstacle du péché, non point par la propre vertu, mais par la vertu de Dieu et la passion du Christ. Le Christ, le prêtre, agit in persona Christi, au nom, à la personne du Christ, mais c'est évidemment le Christ qui va agir par le prêtre. C'est pas le prêtre par ses propres forces qui peut pardonner les péchés. Alors, est-ce que cette clé a un pouvoir de lier ou de délier ? Donc, l'homme est mis en relation avec Dieu par le caractère, avec les sujets, par la clé. Alors, Dieu qui est l'agent principal du salut de l'homme, et c'est à lui qu'il appartient d'admettre au royaume ce qui est la fin dernière, et non pas au prêtre qui a les clés, qui n'est qu'un instrument du ministre. Mais le prêtre agit au nom du Christ. Lorsque le prêtre consacre, il dit les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », bien, la substance du pain, la substance du vin disparaissent, sont remplacées par la substance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas par la force, la puissance du prêtre, mais par la puissance de Dieu qui utilise le prêtre comme un instrument. Donc, tout pouvoir spirituel étant conféré avec une consécration, la clé est donnée avec le sacrement de l'ordre. Mais l'exécution de l'acte de la clé demande une matière appropriée qui est le peuple soumis au prêtre en vertu de la juridiction. Donc, sans la juridiction, le prêtre a donc les clés, mais il n'a pas l'acte des clés. Sans la juridiction, donc le prêtre a la clé pour ouvrir, mais il n'a pas l'autorisation, il ne peut pas mettre la clé dans la serrure. De la même façon, si vous voulez que une comparaison qu'on peut donner. L'exorciste, c'est une des étapes avant de devenir sous-diacre, donc un ordre mineur, portier, lecteur, acolyte, exorciste. L'exorciste a déjà un pouvoir sur le démon, mais ce pouvoir est lié. Il faut qu'il soit délié par l'Église pour que la personne puisse l'utiliser. C'est la même chose avec l'ordre. Par le sacrement de l'ordre, le prêtre a un pouvoir d'ordre, donc il y a un pouvoir qui lui donne la puissance de pardonner les péchés, mais pour que cette puissance puisse passer à l'acte, il faut une juridiction, au moins extraordinaire. Nous allons voir tout ça. Alors, combien y a-t-il de clés, se demande saint Thomas. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Deux choses, dit saint Thomas, sont nécessaires à celui qui doit poser cet acte de pardonner les péchés. Il doit d'abord juger de la capacité du sujet, puisque le sacrement de pénitence est un tribunal, on appelle ça le tribunal de la pénitence, c'est pas pour rien, puis ensuite accomplir l'acte. Voilà pourquoi même dans l'acte de justice par lequel on rend à quelqu'un ce qu'il mérite, il faut un jugement discernant si celui auquel on rend quelque chose le mérite. Pour l'une et l'autre fonction, il faut une certaine autorité ou puissance. Donc, il faut d'abord avoir le pouvoir d'ordre, puis ensuite le pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction ne peut pas s'exercer, bien sûr, s'il n'y a pas d'abord le pouvoir d'ordre. C'est à cause, donc, de ce double pouvoir qu'on distingue deux clés, dont l'une symbolise le discernement de l'idonéité du sujet qu'on doit absoudre, et dans l'autre figure l'absolution. Alors, continuons avec saint Thomas. Alors, je vous donne la réponse à la première objection qui est très intéressante. Il n'y a qu'une clé pour l'ouverture immédiate d'une seule serrure, mais cela n'empêche pas que cette clé soit une seconde clé dont l'acte doit être préparé par celui d'une première. Ainsi en est-il dans le cas qui nous est proposé. La clé qui représente le pouvoir de lier et qui ouvre immédiatement la serrure du péché est une seconde clé. La première est celle de la science qui montre à qui cette serrure du péché doit être ouverte. Une comparaison qu'on peut prendre, un peu matérielle, c'est que dans certains cas, pour des grands secrets d'État, des secrets nucléaires par exemple et tout ça, il y a plusieurs clés qui doivent ouvrir un coffre qui contient les codes nucléaires par exemple. Eh bien, il faut que plusieurs personnes aient ces clés. Il y a une personne qui a une clé, une autre personne qui a une autre clé, et le coffre ne peut pas être ouvert sans la présence des deux personnes pour qu'il y ait les deux clés. Il y a un ordre. La première personne va introduire une première clé, puis la deuxième clé. Et s'il manque une des clés, le coffre ne peut pas être ouvert. C'est un peu la même chose dans le sacrement de l'ordre. Alors, voyez un petit peu l'effet de ces clés. C'est la question 18 de saint Thomas. Ce sont des choses très pratiques là que nous étudions, mais qui sont importantes parce que ce sont souvent des questions qu'on a de la part des fidèles. Alors, saint Thomas donc se pose la question de savoir si le pouvoir des clés s'étend jusqu'à la rémission de la faute. Donc, saint Thomas répond négativement. Dieu n'a pas conféré au ministre, c'est-à-dire au prêtre, le pouvoir de coopérer avec lui à purification intérieure. C'est donc que le pouvoir des clés ne s'étend pas à la rémission de la faute elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une partie de la peine à payer sera enlevée par le sacrement de pénitence, mais cette partie va dépendre du bon vouloir de Dieu. Par exemple, lorsque quelqu'un qui est sous l'état de péché mortel se fait absoudre par le prêtre, s'il y a la contrition au moins parfaite, l'accusation et la réparation, le péché saute, mais il reste la peine qu'il faut payer. La peine qu'il faut payer, ben c'est justement la peine du purgatoire. Hein. Alors, saint Thomas dit, par le sacrement de pénitence, la grâce n'est jamais donnée sans une préparation qui accompagne ou précède la réception du sacrement. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Le pouvoir des clés n'a pas la rémission de la faute comme objet immédiat, c'est que son usage requiert toujours une préparation de la part de celui qui reçoit le sacrement. Le prêtre peut donc manifester l'opération de Dieu remettant présentément la faute et en même temps y concourir par une opération instrumentale dispositive. Ainsi donc, les sacrements de la nouvelle loi manifestent la purification accomplie par l'opération de Dieu et le prêtre du Nouveau Testament pour fonction lui aussi de montrer les coupables absous. Alors le prêtre peut-il remettre la peine due au péché? On a déjà un petit peu parlé. Voilà ce que dit saint Thomas. Il dit, celui qui, par la contrition, a déjà obtenu la rémission de son péché quant à la faute, par conséquent, quant à sa dette de peine éternelle, remise avec la faute, en vertu des clés qui tiennent leur efficacité de la passion du Christ. Il obtient, dans la réception actuelle du sacrement de pénitence, une augmentation de grâce, une remise de la peine temporelle, dont la dette demeure après la rémission de la faute. Cette remise n'est pas totale comme dans le baptême, mais seulement partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on baptise quelqu'un, la personne, par le baptême, efface tous ses péchés et les peines des péchés pardonnés par le baptême, c'est-à-dire les peines du purgatoire. Donc juste après le baptême, personne qui meurt juste après le baptême, même un adulte, va directement au ciel. C'est comme un martyr, si vous voulez. Mais dans le sacrement de pénitence, tout va dépendre du degré de charité qu'on a. On retrouve l'état de grâce, donc la charité par l'absolution du prêtre, à condition bien sûr qu'on ait rempli les conditions de validité de cette absolution, la contrition au moins parfaite, l'absolution et l'accusation et la réparation, mais la destruction de la peine temporelle, c'est-à-dire la peine du purgatoire due au péché déjà pardonné par l'absolution, cette destruction de la peine temporelle est proportionnelle au degré de charité et à la miséricorde du bon Dieu pour cette âme. Et donc, ordinairement, une partie seulement de la peine du purgatoire est ôtée par l'absolution sacerdotale. Dans la pénitence, il n'y a pas changement introduisant une vie nouvelle, car la pénitence n'est pas une régénération, mais une guérison. Voilà pourquoi ce n'est pas toute la peine qui est remise par la vertu des clés opérant dans le sacrement de pénitence, mais seulement une partie de la peine temporelle dont on reste chargé après avoir été absous la peine éternelle. Donc la peine éternelle saute, mais il reste la peine temporelle à payer. On obtient donc une remise partielle de cette peine qu'on doit souffrir en purgatoire, en sorte que celui qui meurt après avoir reçu l'absolution et avant d'avoir accompli sa pénitence est moins puni au purgatoire, en purgatoire que s'il mourait avant l'absolution. Le prêtre ne remet donc pas la peine temporelle en entier, mais seulement en partie, et le pénitent reste encore obligé à une peine satisfactoire. N'oublions pas que pour qu'une absolution soit valide, il ne faut pas simplement la contrition, l'accusation, il faut aussi la réparation. Pas simplement la réparation sacramentelle, si vous voulez, c'est-à-dire la petite pénitence donnée par le prêtre, mais aussi une réparation en dehors de la confession pour rétablir autant que faire se peut la justice entre Dieu et nous. Donc, l'effet de la passion du Christ arrive jusqu'au pénitent par les sacrements de l'Église. Alors, le prêtre peut-il lier par le pouvoir des clés ? Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ dans Saint Matthieu, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans les cieux. » C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, qui choque beaucoup de personnes. Le prêtre n'a pas simplement le pouvoir de pardonner, il n'a pas simplement le pouvoir, dans certains cas, de ne pas pardonner, il a le devoir, dans certains cas, de ne pas pardonner. Il est évident que si quelqu'un se présente au tribunal de la pénitence, donc au confessionnal, mais n'a pas de contrition, par exemple, de ses péchés, n'a pas une contrition au moins imparfaite de ses péchés, qui n'est pas fermement décidé à éliminer les occasions prochaines volontaires de péché, il ne peut pas recevoir l'absolution. Et si le prêtre donne l'absolution dans un cas de ce genre, l'absolution est nulle. Et en plus de ça, le prêtre commet une faute grave si, en toute connaissance de cause, il donne l'absolution à quelqu'un qu'il sait ne pas remplir les conditions de validité d'une absolution. Si le prêtre sait que la personne qui se confesse à lui, en fait, garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, eh bien, il ne peut pas donner l'absolution. S'il donne l'absolution est nulle, et en plus, le prêtre, dans ce cas-là, commet une faute grave. Alors, si vous voulez vous donner, donnez-vous, mais comptez pas sur moi pour vous aider à vous donner. Donc, tout ce qui vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, le prêtre a le pouvoir de lier, pas simplement de délier, mais aussi de lier. Et tout ce qui sera lié ou délié par le prêtre ici-bas, dans le tribunal de la pénitence, sera lié et délié au ciel, dans le sens que Dieu, d'une certaine manière, obéit à la voix du prêtre. De la même façon qu'un prêtre qui prononce les paroles de la consécration, qui est vraiment prêtre, qui prononce les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Dieu obéit à la voix du prêtre et descend pour remplacer par son corps et son sang la substance du pain, la substance du vin. Même, on verra ça plus tard avec saint Thomas, même si le prêtre est un état de péché mortel, parce qu'il garde le pouvoir d'ordre. Et que pour faire descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, il ne faut que le pouvoir d'ordre, le pouvoir de juridiction n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas le cas avec la confession, parce que la juridiction est nécessaire. Alors, saint Thomas se pose donc la question de savoir si le prêtre peut à volonté lier ou délier. Voilà ce qu'il dit. Donc, le prêtre doit pratiquer cette vertu de prudence dans ce domaine. Et voilà ce que dit saint Thomas. Les peines satisfactoires à infliger, étant des médecines, les médicaments doivent être administrés comme les médicaments indiqués par les recettes médicales. Celles-ci ne conviennent pas également à tous, mais doivent être diversifiées selon la volonté du médecin traitant, non par sa propre volonté, mais par les directions de la science médicale. Ainsi, en va-t-il des peines satisfactoires déterminées par les canons pénitentiels. Elles ne conviennent pas à tous, mais elles doivent être diversifiées selon la volonté du prêtre réglée par une inspiration divine. De même que le médecin s'abstient prudemment de donner un remède dont l'efficacité suffirait à guérir la maladie, par crainte que ce remède ne mette le malade en plus grand péril à cause de la faiblesse de sa constitution, ainsi arrive-t-il que le prêtre, mû par un instinct divin, n'impose pas au pénitent toute la peine qui lui serait due pour un péché, de peur que le malade désespéré par la gravité de la peine ne renonce à toute pénitence. Le tribunal de pénitence n'est pas qu'une chambre de torture. Ce n'est pas un endroit pour décourager les gens. Mais en même temps, il faut, dans certains cas, être un petit peu ferme. C'est pour ça que, avant les confessions, le prêtre, souvent, quand il le peut, au moment où quelqu'un lui demande la confession, en allant au confessionnal, la partie où il confesse, dans son oratoire, dans sa chapelle, dans son prieuré, eh bien, souvent, le prêtre fait une petite prière, invoque l'Esprit Saint pour justement savoir ce qu'il doit dire. Ça m'arrive assez régulièrement, demandant qu'est-ce que je dois faire dans tel cas, qu'est-ce que je dois dire là, invoquer l'Esprit Saint, demander la protection à notre Seigneur Jean-Marie. Hein, pour que justement le prêtre soit vraiment un délégué de la miséricorde du bon Dieu. Mais attention, le prêtre n'a pas l'obligation de pardonner systématiquement, et même il a l'obligation de ne pas pardonner quand il voit que les personnes ne remplissent pas les conditions. Beaucoup de gens pensent que systématiquement, l'absolution est un droit. Je vais me confesser, donc le prêtre doit me donner l'absolution. Il est arrivé, c'est assez rare, heureusement, bon, de devoir refuser l'absolution à quelqu'un pour une raison grave. Si je dois refuser l'absolution, ce que je fais d'abord, c'est en général pas un refus d'absolution totale, c'est un retard à l'absolution. Je dis, quand je dois refuser l'absolution à un pénitent, je vais lui dire, écoutez, à mon avis, le fruit n'est pas encore mûr, pour que vous puissiez vraiment vous confesser avec toutes les dispositions. Il manque encore quelque chose. Je vois qu'il n'y a pas, par exemple, chez vous, vraiment un désir arrêté de ne pas recommencer, de prendre les moyens pour ne pas recommencer. Alors, écoutez, réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. Réfléchissez aux solutions que je vous ai données, puis revenez me voir la semaine prochaine, ou revenez me voir demain. Et puis à ce moment-là, on pourra juger si le fruit a mûri pendant la nuit, pendant la semaine, et je vous donnerai l'absolution. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le prêtre est responsable de toutes et chacune de ses absolutions. Alors, nous en sommes à la question 19, le ministre du pouvoir des clés. Bon. Le prêtre de l'ancienne loi avait-il le pouvoir des clés? Bon. Alors, il y a deux clés, donc la clé de la science, du discernement et du pouvoir judiciaire. Bon. Donc, à la question, les prêtres de l'ancienne loi avaient-ils le pouvoir des clés? La réponse est évidemment négative. Pourquoi? Parce que les prêtres de l'Ancien Testament n'avaient pas le sacerdoce catholique. Le sacrement de l'ordre n'avait pas encore été institué. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va instituer le sacrement de l'ordre, mais seulement il va instituer ce sacrement de l'ordre que le soir du Jeudi Saint. Donc le sacrement de l'ordre n'existait pas dans l'Ancien Testament. Il n'y avait d'ailleurs aucun sacrement existant dans l'Ancien Testament, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que grand prêtre, donc en tant qu'homme, qui va instituer ce sacrement. Et donc, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de prêtre dans l'Ancien Testament, et pas de sacrement d'ordre, il n'y avait pas de sacrement qui pouvait être donné par des prêtres, parce que les prêtres n'existaient pas encore, et donc il n'y avait pas de pouvoir de pardonner les péchés directement par le sacrement de pénitence qui n'existait pas. Bon. Il y avait certaines équivalences, en quelque sorte, les purifications, par exemple, imposées par la loi de l'Ancien Testament, la loi juive, la circoncision pour les hommes, toutes ces purifications qu'il y avait pour les femmes en couche, etc. Eh bien, toutes ces purifications de l'Ancien Testament avaient pour but d'augmenter la foi au Christ à venir et étaient des sacramentaux, en quelque sorte, mais qui ouvraient déjà l'âme à la grâce. Et quelqu'un qui venait offrir un sacrifice ou assister à un sacrifice sous l'autorité du grand prêtre qui badigeonnait et qui aspergeait la foule qui était là avec le sang de l'agneau par exemple ou d'un bouc, eh bien ce sang avait le pouvoir indirect d'augmenter la foi et donc aussi la charité dans les âmes de ceux qui assistaient à ce sacrifice. Et donc, il était possible pour ces gens-là d'avoir un regret, l'équivalent d'une contrition parfaite pour leur péché, regret leur péché par amour pour le bon Dieu, et le bon Dieu pardonnait les péchés, bien que le sacrement de l'ordre et le sacrement de la pénitence n'aient pas été encore institués. Le pouvoir des sacerdoces anciens de l'Ancien Testament, donc le pouvoir lévitique, le pouvoir des lévites, ne s'étendait pas aux choses célestes, mais seulement à leur figure. Il faut donc dire que les prêtres de l'ancienne loi n'avaient pas le pouvoir des clés, mais qu'en eux se trouvait précédant la réalité, la figure du pouvoir des clés. Ils avaient un pouvoir, une puissance, mais qui ne passait pas encore à l'acte, si vous voulez. Alors bien sûr, le Christ lui-même avait ce pouvoir des clés. C'est la question 19, article 2 du supplément. Donc, Le pouvoir des clés, tel que le pouvoir des clés, tant comme la vertu des autres sacrements, n'est qu'une cause instrumentale. Le pouvoir des clés exprime, dit saint Thomas, dans son idée même, le pouvoir d'ouvrir et de fermer une porte, soit comme agent principal, soit comme ministre. Voilà pourquoi il faut reconnaître aussi au Christ des clés, mais possédées d'une façon plus haute que ne le peut avoir son ministre. D'où cette conclusion que le Christ a bien sûr le pouvoir d'excellence quant aux clés. C'est pour ça qu'on dit que le Christ est grand prêtre. Il est grand prêtre en tant qu'homme. C'est par son union, si vous voulez, l'union hypostatique, l'union entre la divinité et l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ est grand prêtre. Alors, est-ce que seuls les prêtres ont le pouvoir des clés? Toute l'Église répond, avec toute la tradition de l'Église, ici il cite saint Ambroise, saint Thomas dit, ce droit de lier et délier n'a été accordé qu'aux prêtres seulement. Évidemment, aux prêtres et tous ceux qui sont au-dessus. Évidemment, quand il parle des prêtres, il parle aussi des évêques qui sont tous prêtres ou du pape. Donc les prêtres sont les seuls à avoir le pouvoir des clés. Alors, ça c'est important d'expliquer aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de catholiques ou de catholiques de nom, au moins, attrapent des boutons sur le bout du nez dès qu'on leur dit ça. Comment, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tous les fidèles sont prêtres. Ça, monsieur, c'est du protestantisme, c'est pas de l'Église catholique. Non, tous les fidèles ne sont pas prêtres. Mais d'ailleurs, si les hommes sont prêtres, pourquoi les femmes ne devraient pas être prêtres? Il faut que tout le monde soit égal. Non, les gens ne sont pas égaux devant Dieu. Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes sont égaux dans le sens qu'ils sont créés par Dieu. Tous les hommes sont égaux dans le sens qu'ils ne peuvent aller au ciel que par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ distingue les gens comme il fait une distinction entre les apôtres d'une part, les disciples d'autre part et les autres fidèles d'autre part. Il distingue les choses, c'est pareil pour nous. Donc les prêtres ont charge officielle des relations en quelque sorte de l'homme avec Dieu afin d'offrir les dons et les sacrifices pour les péchés. C'est saint Paul aux Hébreux. Donc les prêtres sont les seuls à avoir le pouvoir des clés. Donc il y a deux clés, si vous voulez, pour simplifier. La clé de l'ordre et la clé de la juridiction. Bon. La clé de l'ordre qui donne le caractère sacerdotal. Donc le caractère sacerdotal est un caractère viscéralement imprimé sur l'âme. Donc un caractère, quelque chose qui ne peut pas sauter. Dieu lui-même n'a pas le pouvoir d'enlever le caractère d'une personne qui est marquée par ce caractère. Rappelez-vous qu'il y a trois sacrements qui donnent un caractère. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Le baptême donne le caractère d'enfant de Dieu. La confirmation, le caractère de soldat de Dieu. Et l'ordre, le caractère de ministre de Dieu. Le caractère ne peut pas être donné. Ne peut pas être ôté, pardon. Même par Dieu. Dieu n'a pas le pouvoir d'enlever un caractère sacerdotal. De même que Dieu, par exemple, n'a pas le pouvoir de détruire le sacrement, le sacrement de mariage, si vous voulez, entre deux personnes, tant que l'une des deux personnes est vivante. C'est pour ça que le sacrement de mariage entre deux personnes, le sacrement de mariage, mariage ratifié, consommé entre deux catholiques, ne peut être annulé par aucune autorité sur la terre, mais aussi au ciel. Dieu lui-même ne peut pas ôter le caractère, non pas le caractère, il n'y a pas de caractère pour le mariage, mais l'union qui existe entre un mari et son épouse. Donc la clé de l'ordre que seuls les prêtres peuvent avoir, parce que eux seuls sont chargés directement des relations du peuple avec Dieu. Le sacrement de l'ordre, si vous voulez, c'est le sacrement qui fait donc le ministre. Mais le sacrement de l'ordre doit être accompagné, au moins pour le sacrement de pénitence, la clé de la juridiction. Alors, cette clé de juridiction, elle peut être ôtée par l'évêque en général. C'est l'évêque qui va donner cette clé de juridiction, qui va donner le pouvoir au prêtre d'appliquer son sacrement de l'ordre pour le sacrement de pénitence. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je vous répète, la clé de juridiction n'est pas toujours nécessaire. Par exemple, pour célébrer la messe validement, il n'y a pas besoin d'une clé de juridiction. N'importe quel prêtre qui a le caractère sacerdotal, même s'il vit dans le péché jusqu'au cou, a le pouvoir d'ordre, et donc s'il prend avec intention de faire ce que veut faire l'Église. Il prend un bout de pain, il prend quelques gouttes de vin, il prononce les paroles de consécration, la consécration sur cette matière. Le pain et le vin n'existent plus. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent avec son corps et son sang. Bon. Alors, la clé de l'ordre est seulement au pouvoir du prêtre, parce que eux seuls sont chargés directement des relations du peuple avec Dieu. L'autre clé, la clé de juridiction, dont le pouvoir ne s'étend pas directement jusqu'au ciel lui-même, mais il n'y atteint que par l'intermédiaire de l'Église militante par laquelle on va au ciel. Donc, le pouvoir de juridiction n'est pas un pouvoir lié, n'est pas un pouvoir qui est inamovible comme le pouvoir d'ordre. Pouvoir d'ordre, sans caractère, personne ne peut l'ôter. Bon. Un prêtre au purgatoire est toujours prêtre. Un prêtre en enfer, malheureusement, toujours prêtre. Bon. Par contre, la clé de la juridiction peut être ôtée ou limitée. Cette clé peut appartenir aussi à des hommes qui ne soient pas prêtres, comme aux archidiacres ou aux prélats élus, à d'autres personnes qui peuvent excommunier. Il peut y avoir des diacres, par exemple, qui ont une certaine juridiction. Ce qu'on appelle les archidiacres, avant, bon, ce sont des postes qui ont disparu actuellement. Hein. Mais les archidiacres, certains prélats, avaient une autorité de juridiction. Hein. Il y avait même, pendant un temps, ça n'existe plus aujourd'hui, des cardinaux diacres. Il était cardinal, et cet homme était cardinal de la Sainte Église, mais il n'était pas prêtre. À ma connaissance, je crois que le cardinal Billot, un très grand théologien, était un cardinal, au début un cardinal diacre. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Cette distinction n'existe plus aujourd'hui. Tous les cardinaux sont systématiquement des évêques et des prêtres. Donc cette clé de juridiction peut appartenir à des hommes qui ne soient pas prêtres. Cette clé n'est pas en soi la clé du ciel, mais un pouvoir qui nous y dispose. Donc l'onction royale ne confère pas, en reprenant un petit peu ce que dit saint Thomas, les rois n'ont aucun pouvoir sur les choses spirituelles. Ils ne reçoivent donc pas la clé du royaume des cieux, mais seulement une autorité sur le temporel qui, elle aussi, ne peut être que de Dieu, comme on le voit par l'épître aux Romains. L'onction royale ne leur confère pas non plus aucun ordre sacré, mais signifie que l'excellence de leur pouvoir descend du Christ, afin qu'eux-mêmes règnent dans la soumission au Christ sur le peuple chrétien. C'est pour ça que le roi avant la Révolution, malheureusement c'est complètement disparu aujourd'hui, le roi de France, était vicaire du Christ, dans le sens qu'il était lieutenant du Christ. Cependant, il avait certains pouvoirs limités dans les choses spirituelles. Par exemple, le roi de France avait le pouvoir de guérir les écrouelles. Mais si mes souvenirs sont exacts, il n'avait ce pouvoir de guérir les écrouelles, c'est une maladie de peau très présente au Moyen-Âge, il n'avait ce pouvoir de guérir les écrouelles que le jour de son couronnement et uniquement s'il était en état de grâce. Il me semble bien que c'était les deux conditions. Alors, ça, encore une fois, ces passages sont importants pour nous aider à comprendre que dans l'idée, dans l'esprit d'Église, dans l'Église catholique, il n'y a pas cette notion d'égalité révolutionnaire, ni de liberté révolutionnaire, ni de fraternité révolutionnaire. C'est important parce qu'on est tous contaminés par ces idées modernes. Il faut que tout le monde soit égal. Ben non, il n'y a pas d'égalité devant Dieu. Chaque âme est différente. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout obligé de juger toutes les âmes de la même façon. Et il sait exactement ce qu'il fait parce qu'il est Dieu qu'il a le pouvoir sur toutes les âmes que n'ont pas les autres personnes. Alors, les prêtres seuls, donc, ont ce pouvoir d'ordre et ce pouvoir qui doit être joint, je l'ai dit, à un pouvoir de juridiction qui nous dispose à donner la clé du ciel. Alors, saint Thomas va plus loin, et en continuation de cette question numéro 19, c'est l'article 4 du supplément question 19, les saints qui ne sont pas prêtres ont-ils pouvoir, aussi le pouvoir des clés ? Eh bien, il a déjà répondu en fait en disant que seuls les prêtres ont le pouvoir des clés, peuvent avoir le pouvoir des clés pour le sacrement de pénitence. La clé, dit-il, qui est une puissance spirituelle, n'appartient qu'au prêtre. Son usage ne peut donc convenir qu'au prêtre. Bon. Alors, il peut y avoir une clé, je vous l'ai déjà dit, une clé de juridiction, dans certains cas, pour les archidiacres, et même pour certains cardinaux avant, les cardinaux diacres avaient une juridiction, même s'il n'était pas prêtre. Le Christ étant dans l'acte du pouvoir des clés l'agent principal, par son autorité en tant que Dieu, par son mérite en tant qu'homme, c'est en vertu de la plénitude de sa divine bonté, la perfection de sa grâce, qu'il peut poser l'acte du pouvoir des clés. Donc un homme, quel que soit le degré de grâce qu'il ait atteint, ne peut arriver à produire l'effet des clés, à moins d'être devenu ministre du Christ par la réception de l'ordre. Donc l'ordre fait de l'homme, qui vient d'être ordonné, un ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle ce sermon important de Mgr Lefebvre, où il disait expressément, il parlait à ces diacres qu'elle était ordonnée prêtre, et il leur disait, une fois que vous serez prêtre, vous n'aurez plus jamais, jamais le droit de considérer que vous êtes comme tous les autres hommes. Vous aurez une marque, un caractère sacerdotal imprimé sur votre âme pour toute l'éternité. Cette marque ne pourra être ôtée par aucune puissance au ciel et sur la terre. Et vous serez différent des autres hommes. Et personne, nous disait Mgr Lefebvre, n'a le droit de mépriser ce caractère sacerdotal. Même, disait-il, si le prêtre lui-même est indigne de son ministère parce qu'il ne vit pas comme un prêtre. Alors, ce pouvoir de juridiction ne dépend pas en soi de la vertu du prêtre. On va voir tout ça. Il y a une autre bénédiction que l'homme donne en qualité de cause instrumentale, appliquant à quelqu'un la bénédiction qui nous vaut le mérite du Christ. Celle-ci requiert la supériorité de l'ordre et non point celle de la vertu. C'est-à-dire en soi, si un prêtre perdu de mœurs, un saint prêtre, célèbre la Sainte Messe, prononce les mêmes paroles de la consécration, dans les deux cas, notre Seigneur Jésus-Christ descend. On ne peut pas dire que si c'est un saint prêtre qui prononce les formes de la consécration, notre Seigneur Jésus-Christ descend de façon plus parfaite que si c'est un mauvais prêtre qui prononce les mêmes formules. Non, c'est le même Dieu qui va descendre, parce que ça dépend du pouvoir d'ordre qui est exactement le même chez le bon prêtre et chez le mauvais prêtre. D'ailleurs, saint Thomas va en parler, c'est l'article 5, qui est la question 19. Les mauvais prêtres ont-ils l'usage des clés? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Personne ne peut savoir d'un autre si celui-ci est en état de grâce. Dieu seul sait ça. Dieu seul peut juger les intentions et les secrets des cœurs. Si donc nul ne pouvait se servir des clés pour l'absolution, à moins d'être en état de grâce, personne ne saurait s'il est absous, ce qui est un inconvénient considérable. Certains protestants prétendent que il faut être en état de grâce pour pouvoir célébrer la messe. Bon. Mais personne ne sait si le prêtre qui est devant vous, qui célèbre la messe pour vous le dimanche, est en état de grâce ou non. À tel point que même si un prêtre est en état de péché mortel, qu'il n'a pas pu se confesser avant malheureusement par l'absence d'un confrère pour se confesser, et qu'il doit célébrer la messe, parce que par exemple tout le monde attend dans l'église, parce que c'est dimanche et que les gens attendent de pouvoir assister à la Sainte Messe, le prêtre doit célébrer, même s'il n'a pas pu se confesser auparavant. Et sa messe est parfaitement valide. Donc l'homme, qui n'est qu'agent instrumental dans l'usage des clés, n'est cependant d'aucune façon privé de l'usage des clés, si privé qu'il soit, par le péché de la grâce qui remet les péchés. Donc le péché personnel du prêtre n'enlève pas l'usage des clés. C'est très important à comprendre. Le roi céleste ne peut être atteint par la fraude, car tout sert à son honneur, même le mauvais usage que quelques-uns font des clés, parce qu'il sait tirer le bien du mal et se servir des méchants pour faire beaucoup de bonnes choses. S'il n'y avait pas eu des persécuteurs, il n'y a pas eu de martyrs. Bon. Sans persécuteurs, il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas devenus des saints, qui sont actuellement des grands saints. Alors, saint Thomas a une belle phrase pour résumer tout ça. Voilà ce qu'il dit. La prière d'intercession que le mauvais prêtre fait en son nom personnel n'a aucune efficacité. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en état de grâce. Mais celle qu'il fait comme ministre de l'Église est efficace en vertu des mérites du Christ. Donc en soi, la prière célébrée, la sainte messe célébrée par un bon prêtre et la sainte messe célébrée par un mauvais prêtre, en soi, ont exactement la même valeur devant Dieu. Parce que c'est le sacrifice de la messe qui a une valeur infinie. Bon. Cependant, accidentellement, le prêtre, qui est un saint prêtre, obtiendra d'autres grâces, qui sont des grâces ajoutées en quelque sorte, à cause de la sainteté de ce prêtre. Mais la messe par elle-même a la même valeur. On ne pourrait pas dire, par exemple, qu'un enfant baptisé par un mauvais prêtre aura moins de grâce venant du sacrement de baptême qu'un enfant, baptisé par un très bon prêtre. Dans les deux cas, c'est le même sacrement. Alors, saint Thomas va plus loin, donc c'est la question 19, article 6, les schismatiques, hérétiques, excommuniés et les prêtres suspens ou frappés de la peine de dégradation ont-ils encore l'usage des clés? Alors ça c'est du domaine canonique. Alors, si c'est la charité de l'Église qui remet les péchés. Or, la charité est ce qui fait l'union de l'Église. Si donc les prêtres précités, sont séparés de l'union de l'Église, ils n'ont pas l'usage des clés pour la rémission des péchés. Donc, un prêtre qui est excommunié, étant hors de la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, n'a plus le droit de confesser ou même de célébrer la Sainte Messe. Cependant, si un prêtre excommunié et un prêtre frappé de la peine de dégradation se retrouve dans un cas d'urgence où il doit absoudre un mourant, par exemple, l'absolution est parfaitement valide. Imaginez un prêtre, c'est l'exemple que je donne tout le temps, un prêtre perdu de mœurs qui a abandonné son sacerdoce, qui vit avec une femme, marié civilement ou non civilement, comme vous voulez, et qui vit dans le péché jusqu'au cou. Il est dans une voiture en train de rouler avec sa concubine et ses enfants illégitimes. Et devant lui, une voiture a un accident et s'enroule autour d'un platane. Bon. Et donc il s'arrête, évidemment, pour voir s'il peut aider. Et la personne qui est en train de mourir dans la voiture devant lui, qui a été enroulée, qui s'est enroulée autour d'un platane, supplie de trouver un prêtre pour qu'il puisse se confesser avant de mourir. Et bien, dans un cas comme ça, le prêtre qui est toujours prêtre, même si lui il est perdu de mœurs, doit donner l'absolution et l'Église lui enlève toutes les suspenses, tous les interdits, toutes les excommunications pour qu'il puisse absoudre cette personne. Et s'il ne le fait pas, comme une faute mortelle supplémentaire. Quand donc l'Église enlève leur sujet aux prêtres hérétiques, schismatiques et autres qui se trouvent dans des cas analogues, soit qu'elle retire toute juridiction, soit qu'elle la limite à certains actes, ces prêtres ne peuvent plus se servir des clés pour le cas où la juridiction leur est retirée. Mais bien sûr, je l'ai déjà dit, ils gardent leur pouvoir d'ordre. Parce que l'Église n'a pas de pouvoir pour supprimer justement ce pouvoir d'ordre. Alors voyons maintenant la question 20. Les sujets sur lesquels peut s'exercer le pouvoir des clés. Alors, c'est la question 20. Article 1 de cette question 20. Le prêtre peut-il exercer sur tout homme le pouvoir des clés qu'il détient? Bon. Alors, saint Thomas cite un décret canonique qui ne soit, le décret de Gratien, qui ne soit permis à aucun prêtre d'absoudre de délier la part le paroissien d'un autre. Donc, le prêtre a pouvoir des clés, pouvoir de juridiction, sur les gens qui sont sous sa juridiction, mais pas sous les gens qui sont sous la juridiction du voisin. Bon. Avant, maintenant, c'est complètement changé, mais avant, dans les temps anciens, un prêtre n'avait juridiction pour les confessions que dans un diocèse particulier. Bon. Et on peut même aller plus loin que ça, un prêtre, un curé de paroisse n'avait juridiction que pour confesser ses paroissiens ou les gens qui venaient lui demander sur sa paroisse. Mais sur le territoire d'un autre curé, il n'avait pas le droit de confesser sans l'accord du curé. Sauf cas d'urgence. Il faut donc, pour l'usage décrit, une certaine puissance d'autorité ecclésiastique grâce à laquelle celui pour lequel on se sert des clés devient la matière propre de cet acte d'autorité. Quant à ceux qui, sous sa direction, ont des parts distinctes de pouvoir, ils ne peuvent pas faire usage des clés pour n'importe qui, mais seulement pour ceux qui sont de leur ressort, sauf en cas de nécessité, d'enjeûnement par exemple, où les sacrements doivent être refusés à personne. Donc, pour absoudre du péché, rappelez-vous, saint Thomas résume de nouveau, il faut un double pouvoir, pouvoir d'ordre, il faut être prêtre, pouvoir de juridiction, avoir reçu de son supérieur ecclésiastique la juridiction. Le premier pouvoir est donné à tous les prêtres également, parce que tous les prêtres ont le caractère sacerdotal, mais pas le second, tous les prêtres n'ont pas la juridiction. C'est pour ça que, dans une ordination sacerdotale, si vous avez déjà assisté à une ordination sacerdotale dans l'Église catholique, une ordination traditionnelle donc, il y a une double imposition des mains. Il y a une première imposition des mains, par lequel l'évêque donne le pouvoir d'ordre, mais il n'a pas encore le pouvoir de juridiction donné. C'est pour ça que le jeune prêtre qui vient d'être ordonné, donc a reçu déjà le premier pouvoir, il est prêtre, il a le caractère sacerdotal, mais son étole est pliée, retenue sur les épaules. Il n'a pas une... pas son étole, ça... Donc la chasuble du prêtre est retenue sur les épaules. Elle ne descend pas derrière le dos comme un prêtre qui célèbre, pour un prêtre qui célèbre la messe. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque encore le pouvoir de juridiction. Et à la fin de la messe d'ordination, le jeune prêtre qui vient d'être ordonné prêtre, qui est déjà prêtre, il a encore une fois le pouvoir d'ordre, le caractère sacerdotal, il revient devant l'évêque, qui lui donne une deuxième imposition des mains. À cette deuxième imposition des mains sur la tête va correspondre le deuxième pouvoir, le pouvoir de juridiction. C'est pour ça que ce pouvoir de juridiction est immédiatement associé à une promesse d'obéissance au supérieur. Donc l'évêque, assis devant le jeune prêtre qui est à genoux devant lui, va prendre les mains du jeune prêtre entre ses mains en lui demandant « Me promettez-vous, à moi et à mes successeurs, à vos supérieurs en fait, obéissance et respect. » Et le prêtre promet. À ce moment-là, il a reçu le deuxième pouvoir, le pouvoir de juridiction, et donc un servant de messe, un acolyte, va venir enlever les épingles qui retiennent la chasuble sur les épaules du prêtre et déployer complètement la chasuble. À ce moment-là, il est vraiment prêtre complètement, avec également le pouvoir de juridiction. Donc c'est la juridiction qui donne au pouvoir d'ordre des sujets qui sont la matière propre de ce pouvoir. Voilà, c'est une phrase très importante de saint Thomas. Donc c'est la juridiction qui donne au pouvoir d'ordre des sujets qui sont la matière propre de ce pouvoir. Et on ne peut pas se servir des clés pour celui sur lequel on n'a pas juridiction. Donc un prêtre, strictement parlant, ne peut exercer son sacerdoce quand il y a besoin de juridiction que sur ceux qui sont sous ce pouvoir de juridiction. Alors, article 2. De la question 20 du supplément. Le prêtre peut-il toujours absoudre son sujet ? Alors voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Le pouvoir des clés en tant que tel permet donc au prêtre d'absoudre son sujet de toutes sortes de péchés. Bon, il y a des limitations canoniques. Il y a ce qu'on appelle des péchés réservés. Bon, c'est des cas très, très spéciaux. Je ne vais pas trop parler là parce que ce n'est pas vraiment le sujet de ce cours. Un péché réservé, c'est un péché qui est réservé par l'autorité au-dessus de soi. Il y a certains péchés, un péché qui est réservé au pape lui-même, qui parfois va déléguer l'évêque pour absoudre de certains péchés. Par exemple, le péché par lequel une femme dénonce faussement un prêtre d'avoir utilisé le sacrement de pénitence pour faire du mal avec elle. Eh bien, si c'est une calomnie, si c'est faux, ce péché est réservé. Donc, voilà ce que dit saint Thomas donc, sur cet article. Le prêtre peut-il toujours absoudre son sujet ? Voilà ce qu'il dit, parce que l'usage de ce pouvoir requiert une juridiction qui descend des supérieurs aux inférieurs. Le supérieur peut donc se réserver certains cas dont il ne confie pas le jugement à son inférieur. En dehors de cette réserve, le simple prêtre ayant juridiction peut absoudre de n'importe quel péché. Par exemple, avant, plus maintenant de la même façon, avant, la plupart du temps, les, au Moyen-Âge, par exemple, le péché d'avortement était réservé à l'évêque. Seul l'évêque pouvait absoudre ce péché. C'était pour aider les fidèles à comprendre la gravité de ces choses-là. Alors, saint Thomas explique, alors les choses ont un peu changé de son temps, puisque saint Thomas, c'est le XIIIe siècle, depuis il y a eu le code de droit canonique de saint Pédis, celui qu'on suit dans l'Église catholique de 1917, préparé par saint Pédis et publié par son successeur immédiat, Benoît XV. Donc saint Thomas rappelle les cas dans lesquels le simple prêtre doit renvoyer le pénitent au supérieur. Par exemple, quand il y a lieu d'imposer une pénitence publique, car l'évêque est le ministre de cette pénitence solennelle. Quand il s'agit d'excommunier, dont le simple prêtre ne peut pas absoudre, parce que l'excommunication a été portée par un supérieur. Troisièmement, quand le prêtre se trouve en face d'une irrégularité dont la dispense est réservée au supérieur. Bon, dans certains péchés, là il donne l'exemple des incendiaires. Il y a aussi certaines coutumes dans certains diocèses de réserver l'absolution de certains crimes énormes à l'évêque pour en inspirer l'horreur, car la coutume en pareil cas donne ou enlève le pouvoir de juridiction. Article 3 de la question 20 du supplément, peut-on exercer le pouvoir des clés sur son supérieur? En bon français, ça veut dire est-ce qu'un inférieur peut confesser son supérieur? Un curé a-t-il le droit de se confesser à son vicaire? Ben, la réponse est évidemment oui. Beaucoup de curés, par exemple, avant, qui étaient très isolés, ben, ils se confessaient à leur vicaire quand ils en avaient un. Et voilà ce que dit saint Thomas, le prélat, lui aussi, est plongé dans l'infirmité et il peut lui arriver de pécher. N'oublions pas que même le pape peut pécher, le pape est infaillible dans son magistère ordinaire et extraordinaire, quand il parle ex cathedra, quand il répète par exemple ce qui a toujours été fait dans l'Église, mais le pape n'est pas impeccable, il peut pécher. C'est pour ça qu'au Vatican, il y a un poste très important qui est le poste de confesseur du pape, qui est donné en général à un vieux cardinal. Et le pape ouvrait sa conscience à ce vieux cardinal. Donc le prélat peut pécher, donc a besoin de se confesser, et peut parfaitement se confesser à quelqu'un qui lui soumet. Il peut donc aussi se servir de son, un prêtre peut donc se servir de son pouvoir des clés pour le supérieur qui s'y soumet volontairement. Par exemple, bien qu'un évêque soit absolument parlant le supérieur du prêtre qui l'absout, il lui est cependant inférieur en tant qu'il se soumet à lui comme pécheur. Il y a par exemple, c'est une comparaison, mais c'est aussi très beau de voir par exemple parfois un père, une mère, qui vont se confesser à leur enfant prêtre. Enfant prêtre. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas très souvent, mais ça m'est arrivé de confesser ma vieille maman quand elle accepte. Bon, justement dans ce cas-là, bien que mes parents soient sur plan naturel, mais supérieurs, à partir du moment où le père se soumet à l'enfant parce que l'enfant est prêtre et que le prêtre, le père de famille ou la mère de famille se soumet à son fils en tant qu'il est prêtre, eh bien le fils devient supérieur dans ce cas-là, pendant la confession. Alors, question 21, on rentre dans des questions beaucoup plus canoniques. Donc, je vais passer assez vite parce que ce n'est pas le but du cours, pas un cours de droit canonique. Sur l'excommunication, hein, c'est la question 21. Convient-il, dit saint Thomas, de définir l'excommunication comme la séparation de la communion de l'Église quant à ses fruits et à ses suffrages communs? Excommunication, le mot veut dire se sortir de la communion avec l'Église. Donc celui, dit saint Thomas, qui est agrégé par le baptême à l'Église est admis à deux choses, à la communion des fidèles et à la participation des sacrements. Et la seconde de ces choses, c'est-à-dire la participation des sacrements, suppose la première. Vu que pour participer au sacrement, les fidèles sont aussi en communication. Donc il faut la communion des fidèles avec leur supérieur, avec l'Église, pour pouvoir participer au sacrement. On peut donc être retranché par excommunication de l'Église de deux manières. Par exclusion de la participation au sacrement seulement, c'est ce qu'on appelle excommunication mineure, et par exclusion de l'un et l'autre des biens susdits, c'est l'excommunication majeure qui est définie ici. L'excommunication est donc quelque chose d'extrêmement grave. Hein? Alors, saint Thomas explique bien cela, que l'on ne peut être en effet excommunié de façon juste que pour une faute mortelle qui déjà séparait de la charité, même si l'on n'était pas excommunié. Quant à une excommunication injuste, elle ne peut ôter à la personne la charité, puisque celle-ci est un de ses biens majeurs dont personne ne peut être dépouillé contre sa volonté. Hein? Donc personne ne peut ôter la charité, c'est-à-dire l'état de grâce d'une personne, sans que cette personne ne perde cette charité par le péché personnel, le péché actuel. Ça, c'est très important. Donc, saint Thomas dit bien qu'on ne peut être excommunié de façon juste que pour une faute mortelle. Donc, on ne peut pas être excommunié pour une faute vénielle. On ne peut pas être excommunié pour une chose qui n'est pas importante. Alors, saint Thomas, ensuite, va approfondir un peu. C'est assez canonique, mais je vous donne rapidement le résumé de ce qu'il dit. Donc c'est la question 21, article 2. L'Église doit-elle excommunier quelqu'un ? se demande saint Thomas. Donc voilà ce qu'explique saint Thomas. Il cite l'apôtre, saint Paul, dans la première aux Corinthiens, qui ordonne d'excommunier un fidèle. Donc, il cite aussi saint Matthieu, qui parle de celui qui refuse d'écouter l'Église en disant qu'il soit pour toi comme le païen ou le publicain. Or, les païens sont hors de l'Église. Donc, ceux qui dédaignent d'écouter l'Église doivent être jetés hors de son sein par l'excommunication. Donc, le jugement de l'Église doit être conforme, évidemment, au jugement de Dieu. Donc, Dieu punit les pécheurs de plusieurs façons, en vue de les ramener au bien, tantôt en les châtiant par des fléaux, Tantôt en abandonnant l'homme à lui-même, afin qu'étant privé des secours grâce auxquels il était préservé du mal, il reconnaisse sa faiblesse et revienne humble à Dieu dont il s'était écarté orgueilleux. C'est quelque chose qui était très important au Moyen-Âge. Évidemment, c'est des choses qu'on ne peut même plus expliquer aux fidèles, aux gens en général aujourd'hui, ils sont incapables de comprendre ça. Avant, par exemple, dans certains crimes publics des rois, de ceux qui avaient autorité politique, le pape avait pouvoir, puisque le pape, pouvoir spirituel, qui est au-dessus du pouvoir temporel, le pape avait, dans certains cas, le pouvoir de délier du vœu d'obéissance tous les chevaliers du royaume. Et le pape l'utilisait rarement, mais il l'utilisait parfois. Imaginez, par exemple, il y a eu plusieurs cas de rois qui commençaient à vivre n'importe comment, à répudier leur épouse légitime pour prendre une concubine. Eh bien, le pape envoyait d'abord un évêque avec des autorités spéciales venant du pape, pour essayer d'amener le roi en question, le prince en question à récipiscence. Et si le prince refusait de changer, le pape, dans certains cas, pour éviter un scandale considérable, avait même le pouvoir de délier encore une fois tous les chevaliers du royaume de l'obéissance à leur prince. Et d'un seul coup, le roi se retrouvait comme un général d'armée qui a perdu tous ses soldats. Plus personne ne lui obéissait. Et il y a eu plusieurs cas comme ça dans l'histoire de l'Église. Je ne vais pas t'expliquer tout ça en détail parce que ce n'est pas le but du cours. Et dans bien des cas, cela suffit pour ramener à récipiscence, au moins extérieurement, le roi qui reconnaissait le pouvoir du pape venait s'agenouiller devant le pape pour demander pardon et le pape levait excommunication. Donc, par la sentence de l'excommunication, l'Église imite sous ces deux rapports le jugement de Dieu. Car en séparant de la communion des fidèles pour le faire rougir celui qu'elle frappe, elle imite le jugement de Dieu corrigeant par des fléaux. Tandis qu'en privant des suffrages et autres biens spirituels, elle imite le jugement par lequel Dieu abandonne l'homme à lui-même pour que, prenant conscience par la voie de l'humilité de son état, il fasse retour à Dieu. Évidemment, aujourd'hui, c'est des choses que les gens ne peuvent plus comprendre parce qu'ils ont perdu la foi, malheureusement. Alors, il donne l'exemple du médecin. Le médecin fait-il parfois, dit saint Thomas, un certain mal au malade, par exemple par une incision, pour le guérir de sa maladie? Donc, du fait que l'on est privé des suffrages de l'Église par l'excommunication, on encourt, dit saint Thomas, un triple préjudice correspondant au triple avantage qu'on en retire de ces suffrages. Ceci, tout d'abord, procure l'augmentation de la grâce chez ceux qui la possèdent déjà, ou du mérite en vue d'acquérir pour ceux qui ne l'ont pas. Et c'est pour ça qu'on dit que par l'excommunication, la grâce de Dieu est retirée. Deuxièmement, les suffrages de l'Église servent en deuxième lieu à la sauvegarde de la vertu. Et sous ce rapport, on dit que par l'excommunication, la protection est ôtée. Non pas que ceux qui en sont frappés soient absolument soustraits à la providence de Dieu, mais ils sont privés de cette protection plus spéciale par laquelle celui-ci gardait ses enfants. Et enfin, troisièmement, les suffrages de l'Église sont une aide pour se défendre de l'ennemi. Et sous ce dernier rapport, on dit qu'un plus grand pouvoir est donné au diable d'agir contre lui, tant spirituellement que corporellement. C'est pourquoi, dans l'Église primitive, se précise saint Thomas, alors qu'il convenait que les hommes soient amenés à la foi par des signes, de même que le don d'esprit était manifesté par un signe visible, l'excommunication apparaissait dans les violences corporelles infligées par le démon. Rien n'interdit en effet que celui qui n'est pas dans un cas désespéré soit livré à l'ennemi, vu qu'il ne lui est pas livré comme s'il devait être damné, mais pour être corrigé, l'Église ayant le pouvoir de l'arracher à ses mains quand elle le voudra. Voilà, je vais arrêter là. Donc, nous arrêtons à la question 21, article 3. Peut-on être excommunié pour un dommage temporel qu'on aurait causé ? On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.